Inclusivement Vôtre, c'est le podcast qui envisage la culture d'entreprise comme un pilier stratégique du développement des organisations, avec un prisme diversité, équité et inclusion. Je m'appelle Laura Driancourt et je suis l'hôte de ce podcast créé et produit par Projet Adelphité, l'agence de conseil et stratégie en diversité, équité et inclusion, qui propose une approche multidimensionnelle pour mettre ce sujet au cœur de la performance des organisations. Nous conseillons les entreprises pour construire une stratégie diversité, équité, inclusion avec un maximum d'impact et sans s'épuiser, que ce soit culture d'entreprise, audit, recrutement, évaluation, promotion, grille salariale ou encore sensibilisation. Nous proposons un accompagnement de A à Z. Je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode d'Inclusivement Vôtre. Pendant 3 épisodes, nous échangeons avec Louise Traguet, analyste financière chez Disney. Elle a fait une première partie de sa carrière dans les grands cabinets de conseil, un environnement dans lequel elle ne s'est jamais sentie assez en sécurité pour transitionner. Dans le premier épisode, Louise a partagé avec nous ce qu'elle a trouvé chez Disney qui lui a permis de se sentir prête à faire sa transition. Dans la deuxième partie, Louise explique le stress qu'un coming out au travail peut représenter. Dans cette dernière partie, elle nous donne les bonnes pratiques pour faciliter les transitions en entreprise.
En parlant d'a priori, il y a aussi tout l'a priori qui connecte, enfin cette idée préconçue qui connecte le genre et les organes génitaux, oui. Qui saute en fait complètement. Qui crée vraiment une fluidité aussi dans tout ça. On va pas rentrer trop dans l'intime, etc., parce que c'est pas l'objet du podcast, mais oui. Je pense que c'est intéressant de mettre ces petites graines pour la réflexion des personnes, en fait.
De rentrer dans l'intime juste sur la notion de transition de genre, ou par rapport à ce que tu disais, la transition sociale, on parle souvent sur les choses qui sont méconnues des personnes transgenres. C'est que pour la plupart, on va penser qu'une transition médicale est obligatoire. On s'entend que sinon, on ne fait pas une transition. Il n'y a pas les policiers qui vont dire « Attends, t'as fait ta transition médicale ». Mais en fait, le parcours, on a l'impression, dans la manière dont c'est traité dans les médias, dans la manière dont c'est documenté, qu'une transition, c'est une transition type, c'est un coming out, c'est un changement d'état civil, donc une transition administrative, un traitement hormonal, des opérations avec l'aboutissement pour une femme trans, la vaginoplastie, ou pour un homme trans, la phalloplastie, et que c'est la fin d'une transition. Ça, c'est pas vrai.
On va juste faire un petit point vocabulaire sur la vaginoplastie, donc c'est le fait de reconstituer. Oui, je me dis, il y a peut-être des gens dans l'audience qui ne sauront pas ce que c'est. Donc la vaginoplastie, c'est le fait de recréer un vagin. À partir d'un pénis.
Exactement.
Et la phalloplastie, bah c'est l'inverse, c'est le fait de créer un pénis à partir d'un vagin.
Exactement.
Plus exactement.
Exactement. Bon, après, il y a plein de variantes. Enfin, il y a plein de.
Il y a la vulvoplastie.
Exactement. On va pas rentrer dans ça parce que je pense que c'est vraiment pas l'objet du podcast. Mais faut savoir déconstruire un peu cette vision des choses et accepter qu'une personne transgenre, quand elle va faire un coming out, elle peut ne pas faire de transition administrative, elle peut ne pas faire de transition médicale, et que, en fait, l'aboutissement de sa transition, c'est quand elle le décide. Oui. Ce que j'aime dire, c'est qu'il y a autant de parcours de personnes trans que de personnes. C'est ça qui n'est pas facile d'un point de vue RH, d'un point de vue... Parce qu'il y a un côté très personnalisé de la chose, de comment on accompagne la personne, parce que toutes les personnes ne veulent pas la même chose, et toutes les personnes ne vivent pas les choses au même rythme. Il y en a qui vont boucler tout l'administratif, tout le côté opération en 1 ou 2 ans, alors que pour d'autres personnes, il va y avoir ce besoin de prendre son temps, de faire les choses de manière beaucoup plus étalée dans le temps. Et ça, c'est important à savoir et à prendre en compte, en fait, quand on accompagne une personne transgenre. C'est que faut pas imposer des choses, il n'y a pas de parcours défini, il y a vraiment un accompagnement de la personne.
Tu sais quoi, on va en profiter pour approfondir un peu sur comment Disney t'a accompagné dans ta transition, parce que du coup, il y a eu tout le parcours RH,
oui.
Et je pense que c'est l'occasion de partager aux personnes RH qui nous écoutent les bonnes pratiques, justement, pour accompagner des personnes trans dans leur transition, parce que très souvent, quand je parle aux RH, on sent un petit moment de panique, en mode de « comment je gère ça ? Je ne sais pas du tout. Je ne sais même pas le vocabulaire exactement qui est approprié. Je ne sais pas les questions qu'il faut poser. Et j'ai peur d'être maladroite et blessante. » Donc du coup, voilà, quelles sont les bonnes pratiques ? Déjà, il y a une personne qui arrive et qui dit « je suis trans ». Enfin, je suis une femme alors qu'on pensait que c'était un homme, et inversement. Comment on gère ? Qu'est-ce qu'on fait ?
Alors déjà, je pense que la chose la plus importante à savoir, c'est on a le droit à la maladresse. On a le droit de faire des erreurs. On ne peut pas être expert de tout. On ne peut pas être expert... Enfin, les personnes, on n'est pas obligé d'être expert de ce sujet-là pour traiter les choses de la bonne manière. C'est déjà de poser beaucoup de questions. Pas des questions intimes, mais beaucoup de questions sur... Qu'est-ce que ça implique de faire ce coming out ? Qu'est-ce que la personne attend de cela ? Elle peut aussi expliquer un peu certaines étapes. Est-ce que ça implique un changement administratif ? Comment on gère ? Etc. Donc, il ne faut vraiment pas avoir peur de faire d'erreur ni de maladresse. Il faut juste faire les choses dans la bienveillance. À partir du moment où c'est fait dans la bienveillance et dans l'intérêt de l'autre pour l'accompagner d'un point de vue RH dans sa transition, tout se passera très bien. Et la personne qui fait cette demande et qui fait sa transition, on sera que super heureuse d'avoir quelqu'un de compréhensif, de bienveillant et avec une ouverture d'esprit, même si on ne sait pas trop comment les choses vont se passer. Juste de dire, bon, bah, je vais me renseigner, je vais voir comment ça se passe. Ça, pour moi, c'est la manière déjà d'aborder la chose. Après, c'est un petit peu plus cadré chez Disney. Parce qu'il y a une expérience chez Disney, parce que je ne suis pas, la première, je n'ai pas été la dernière, et je le serai même la personne qui doit être en train de faire une transition de genre à l'heure actuelle à Disney sera pas la dernière, il y en aura d'autres. Donc Disney est beaucoup plus à même sur ces sujets, et il y a des personnes qui sont vraiment formées. Mais moi, ce que j'ai aimé, c'est je trouve que c'est la meilleure manière, c'est que ça a été très personnalisé. On s'est mis autour de la table avec plusieurs acteurs en disant. Comment tu veux qu'on t'aide à l'annoncer déjà ? Parce que, en fonction du métier qu'on fait, il y a un certain nombre d'implications de communication, de coming out. Parce que forcément, quand moi, je suis devenue Louise, il a fallu le dire aux autres. Forcément, c'est qui cette Louise qui apparaît, là, qui m'écrit des mails ou qui est dans la réunion, a fallu quand même faire ce coming out-là. Et donc, il a été question de comment communiquer et de l'aide dont j'avais besoin. Est-ce que mon manager, donc il y avait mes leaders qui étaient présents, plus le département diversité inclusion et les RH, et des personnes des RH. Et la question, ça a été, qui est-ce que tu veux qui t'accompagne sur ce sujet-là ? Les managers, est-ce que vous êtes OK ? Moi, j'ai dit, j'aimerais bien que mes managers m'aident à faire ça, à passer une com, que ça soit un petit peu plus formel, etc. Les RH ont dit, est-ce que vous voulez de l'aide ? Ils ont été en appui à mes managers par rapport à ça, en disant, est-ce que vous êtes à l'aise à le faire ? Est-ce que vous avez besoin d'aide sur comment le faire, etc. Ça a été vraiment, tout le monde se met autour de la table, comment on veut gérer les choses, en faisant attention à certains points, c'est-à-dire, et c'est ce que j'ai beaucoup aimé de la position de Disneyland Paris, c'était que le point d'ordre et le point vital de la chose, c'était de dire, il faut que dans nos communications, dans la manière dont ça va être annoncé, la position de Disneyland Paris, c'est on soutient Louise dans sa transition. Il n'y a pas de « on a le droit aux moqueries, on a le droit aux remarques, on a le droit aux critiques ». Non. La position claire de l'entreprise, la position claire des RH, c'était « nous, les transitions de genre, au-delà d'être OK avec ça, c'est une normalité, vous n'avez pas à dire quoi que ce soit par rapport à ça ». Un vrai soutien de l'entreprise. Et ça fait plaisir parce que du coup, derrière, quand on peut avoir des micro-agressions ou des choses comme ça, on a un vrai soutien et on se sent soutenu par son entreprise. Je pense que d'afficher une position claire en disant « chez nous, c'est normal de faire une transition de genre. On soutient ça. » Et ça a été vraiment, dans toutes les communications. Et ça a été pour moi vraiment un point qui m'a rassuré tout au long de ma transition, d'avoir Disney derrière moi pour ça, d'avoir les RH et mes managers aussi. Il y a eu une formation qui a été proposée aussi. Je trouvais que c'était des très bonnes idées, les best practices. Il y a une formation qui a été proposée à mon équipe. Donc, mon manager a accepté en disant « oui, on va faire une formation » qui était animée par le diversité et inclusion, qui démystifiait aussi un peu la transidentité sur les choses à éviter, sur ce que c'était pour vraiment un peu lever le voile par rapport à ça. À chaque fois que je fais des trucs Pride, c'est ce que j'aime citer à VeroS, qui dit « L'ignorance mène à la peur mène à la haine et la haine mène à la violence. Oui. » Et en fait, c'est en levant ce voile d'ignorance sur la transidentité qu'on évite tout l'enchaînement qu'il peut y avoir derrière. Et de proposer ça, c'était un peu ça. C'était de dire « On lève ce voile d'ignorance. Oui. » C'est, j'ai participé en plus, moi, à la formation. J'ai eu le choix. Hein. C'était vraiment, est-ce que tu veux la faire avec, avec ton équipe ? Et j'ai trouvé ça génial, en fait, d'avoir cette transition à la carte
oui.
où, en fait, les RH et le leadership se plaçaient en comment tu veux que ça se passe ? Nous, on t'aide. Et où est-ce que tu veux qu'on se place dans ce soutien ? Pour moi, c'est vraiment la meilleure manière d'aborder les choses. Après, je pense qu'on a l'avantage maintenant d'avoir Internet, même si on trouve tout, hein, c'est pas forcément le meilleur. On peut, quand on est en RH, se rapprocher d'associations, se rapprocher, par exemple, il y a l'autre cercle qui fait un travail extraordinaire sur ça. Quand on ne sait pas, on peut très facilement et gratuitement se rapprocher de personnes qui peuvent aider et donner les clés pour aider aussi.
Je vais rajouter, il y a l'AFMD qui a fait un très bon guide sur, en tant que manager, comment manager et RH, comment accompagner en cas de transition. Et sinon, plus généralement, sur les questions de transidentité, il y a tout le travail de l'association AcceptST qui fait donc il y a un très bon travail pour aussi pour les parents, pour les familles, pour les amis, sur comment bien accueillir une transition. Moi, je trouve ça intéressant. Je trouve peut-être de le célébrer aussi. Alors après, est-ce que l'entreprise peut le dire ? On a une bonne nouvelle à vous annoncer. Ça va dépendre aussi de comment la personne a envie de présenter ça, je suppose. Que moi, j'ai envie de dire, c'est une bonne nouvelle. C'est une personne qui a choisi
oui.
d'être soi-même.
Oui, c'est
et
une
je
bonne
pense
nouvelle.
Que c'est à célébrer aussi. Quoi.
C'est une formidable nouvelle. Hein. C'est à mettre sur le même plan que d'annoncer une parentalité oui. ou quelque chose comme ça. C'est, Alors après, je mets juste le bémol sur le fait que pour beaucoup de personnes transgenres, je pense qu'on a aussi un peu envie que ce soit un non-événement.
Oui.
Dans le sens où, by the way, maintenant c'est Louise, je suis une femme. Ce serait sympa si vous pouviez utiliser les pronoms « elle », etc. Et éviter de me mégenrer, en tout cas, sur le moyen terme. Et après, on passe à autre chose. Donc, c'est à la fois une bonne nouvelle, mais à la fois, il ne faut pas non plus, je pense, trop en faire. Après, ça dépend des personnes. Hein. Je parle pour moi. Mais je pense que j'étais très à l'aise dans le fait que ça soit un non-événement, que ça soit dit. J'ai eu plein de messages hyper bienveillants en réponse à tout ça. C'était génial. Ce que j'ai adoré à Disney, vraiment dans mon expérience, c'était génial. C'est que, on était en télétravail, mais la semaine d'après, je suis allé au bureau et c'était comme si c'était rien passé.
Ah, c'est trop bien.
C'était hello Louise, machin et tout. Et c'était comme si, littéralement, il s'était rien passé la semaine d'avant.
Ça, t'avais toujours été Louise.
C'est comme si j'avais toujours été Louise. Et ça, ce sentiment-là, il est génial. Je le souhaite à toutes les personnes trans en entreprise. C'est génial, en fait. On vit ce moment de peur, de stress, on reçoit plein de messages. Et la semaine d'après, c'est fini, c'est passé. Et c'est comme si on ne parle plus de ce que c'était avant. C'était génial, génial.
Trop chouette. Effectivement, c'est tout ce qu'on peut souhaiter aux personnes trans, que ça soit aussi fluide et facile.
Ouais.
Enfin, même si ça fait toujours un peu peur, mais ensuite, que ce soit fluide et facile.
Oui, que l'après soit fluide.
On va réélargir un peu le sujet et on va parler pratiques managériales. Donc ma question, c'est quelles sont les pratiques managériales que tu aimerais voir disparaître ?
Les pratiques managériales que j'aimerais voir disparaître, déjà le manque d'empathie. Le manque d'empathie, c'est vraiment quelque chose, c'est un cercle vicieux hein, dans beaucoup de choses. Le fait de s'entourer aussi que des personnes qui nous ressemblent. Le fait de refuser cette politique de diversité. Pour moi, j'aimerais voir ça disparaître parce que c'est tellement mieux de fonctionner dans des entreprises où il y a une diversité, où on rencontre plein de choses, parce que c'est enrichissant, en fait, c'est culturellement, intellectuellement, c'est beaucoup plus enrichissant de s'entourer et de fréquenter des personnes qui sont profondément différentes de nous que d'être avec que des gens qui nous ressemblent. Pour moi, vraiment, arrêter de s'entourer avec des personnes qui nous ressemblent et promouvoir cette diversité et le manque d'inclusion. Ça va de pair. Pour moi, je pense que si on inclut, on diversifie. Et plus on s'ouvre aux gens, plus on découvre les gens, plus on fait preuve d'empathie, parce que on se rend compte que les gens ont des différences, que des fois on les voit pas nous, et que ces différences amènent plein de choses et qu'il faut les traiter de manière bienveillante.
Dans le sens inverse, quelles sont les pratiques managériales que tu aimerais voir davantage ?
La bienveillance, la confiance, la diversité, l'inclusion, Je sais que j'ai une vision un petit peu utopiste des choses, mais le fait de vraiment essayer de s'ouvrir aux autres et de découvrir les autres et de comprendre que les autres ont à nous apporter. J'ai tellement d'exemples de managers que j'ai pu rencontrer qui pensaient avoir... que ça soit eux qui apportaient quelque chose à leurs équipes, alors qu'en fait, la plupart du temps, c'est l'inverse. Pour moi, un bon manager, c'est quelqu'un qui accepte que ses équipes ont lui à apprendre des choses. Et que c'est la plupart du temps ses équipes qui lui apprennent des choses et qui font lui grandir en tant que manager. D'avoir ça, d'avoir cette aller vers l'autre et apprendre de l'autre. Parce que plus on apprend des autres, plus on rencontre des gens, plus on les écoute, plus c'est beau en fait de voir la vie après, quoi. C'est hyper enrichissant.
Quels sont les axes d'amélioration que tu verrais en termes de diversité et d'inclusion, que ce soit chez Disney ou dans d'autres entreprises ?
Je pense que les réseaux d'employés au sein des entreprises sont hyper importants parce qu'on apporte des idées aussi novatrices sur pas mal de sujets. On est souvent au cœur de l'actualité et par exemple, on ne sait jamais sur qui on tombe, mais on peut avoir des personnes qui sont militantes dans leur vie perso et qui peuvent énormément apporter à la culture d'entreprise et pour défendre des valeurs. Pour moi, en politique, ouais, de diversité et inclusion, vraiment, les réseaux d'employés sont des formidables leviers de diversité et d'inclusion. Ensuite, se doter de personnes dont c'est vraiment le métier et qui sont vraiment passionnées par ça, parce que il y en a plein qui maîtrisent beaucoup de sujets, qui font un boulot extraordinaire, et d'avoir une vraie équipe diversité et inclusion. Après, je sais que c'est pas toujours facile pour les petites entreprises ou pour des choses comme ça, mais on peut se faire aider de cabinets de conseil, etc. Mais d'essayer vraiment d'avoir une vraie politique de diversité et d'inclusion. Toutes les entreprises n'en sont pas au même niveau. À Disney, je trouve que c'est vraiment très bien. Enfin, on est vraiment sur un... On peut toujours s'améliorer, on est toujours en amélioration continue. Il y a toujours des choses à faire pour que l'inclusion soit encore mieux. Ça passe par les offres d'emploi où on arrête de mettre juste le HF et qu'on met le NB pour non-binaire derrière, où on ne discrimine pas sur les CV, on accepte même les personnes qui n'ont pas de passing, par exemple, en transition de genre. Enfin, ça passe par beaucoup de biais. Il y a un travail titanesque à faire parce que la société ne nous aide pas et qu'il faut se dire qu'on est... Je pense que oui, la volonté d'être en amélioration continue, faire confiance à ses employés et mener une vraie politique de diversité et inclusion.
Trop chouette, c'est un bon plan déjà.
C'est pas mal, hein.
On va reparler un peu de toi. Quel serait le conseil que tu te donnerais en début de carrière, si tu en avais un à te donner ?
Je pense que le premier conseil, c'est tu vas croiser plein de personnes sur ta route, des personnes merveilleuses de qui tu vas apprendre plein de choses. Des personnes qui font pas leur métier pour des bonnes raisons et qui vont vraiment être horribles. L'essentiel dans tout ça, c'est qu'en début de carrière, tu es là pour apprendre à faire un métier. Tu vas avoir plein d'opportunités. Je pense que la première chose que si je me voyais maintenant, j'ai déjà fait une transition beaucoup plus vite. Vas-y, let's go, fais-la maintenant, attends pas. Et ensuite, saisis toutes les opportunités qui s'offrent à toi et qui te plaisent. T'enferme pas dans quelque chose, apprends. Apprends, découvre, fais plein de métiers, ça sera ce qu'il y a de plus enrichissant.
Ce sont des bons conseils. C'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup chez les personnes trans, fais-le plus tôt.
Ah oui. Ah mais moi, oui. J'ai longtemps dit que c'était un regret. Avec le recul, je sais très bien que quand j'aurais voulu le faire, c'est-à-dire 14-15 ans, les représentations trans que j'avais étaient pas dingues du tout. C'était les reportages tellement vrais ou les films psychodrames. Où en fait, moi, à mes 15 ans, je voulais pas être transgenre à 15 ans. Quand je me suis dit que j'étais différente, j'ai refusé très très longtemps le fait que j'étais transgenre. Parce que quand à 15 ans, pour moi, être transgenre, c'était finir travailleuse du sexe au bois de Boulogne ou dépressive ou suicide. C'était ça. C'était mes choix de carrière, en fait, dans la transidentité. Et c'est qu'après, quand j'ai vu des représentations positives, quand j'ai vu des femmes, Laverne Cox... C'est très américain, hein, c'est parce que c'est souvent Hunter Schafer dans la série Euphoria, etc. Ou des personnes incroyables avec une force incroyable et une aura incroyable. Je me suis dit, mais en fait, si, je peux être comme ça. Et ça a été ces déclencheurs-là qui ont fait, allez, let's go, on y va. J'admire vraiment du plus profond de mon cœur les personnes qui l'ont fait en ayant cette image-là, en disant, moi, je me destine peut-être à ça, mais j'y vais pour changer les choses. Parce que moi, j'ai pas eu le courage. Elles ont tout mon respect, toute mon admiration. Ces personnes-là qui ont fait ça dans des sociétés qui étaient encore bien plus difficiles et hostiles, c'est vraiment des personnes incroyables, incroyables.
Où est-ce que tu te vois dans 6 mois?
Disneyland Paris. Tu pourrais me poser la question dans 30 ans, je pense que je serai toujours à Disneyland Paris. C'est une boîte extraordinaire où je m'épanouis et où j'espère, enfin, où j'ai des opportunités et où j'espère pouvoir m'en créer. D'avoir des super opportunités pour faire plein de choses encore, pour apprendre plein de choses. Donc, Disneyland Paris, j'espère pouvoir à un moment donné faire autre chose que de la finance, parce que je m'étais promise que je ferais plein de métiers différents, pas que au sein de la finance, mais que je ferais plein de métiers différents, parce que je pense que c'est beaucoup plus riche de ne pas s'enfermer dans quelque chose, même si je ne dénigre pas celles des personnes qui font toute leur carrière dans une entreprise à un poste. Mais moi, c'est pas la manière dont j'envisage ma carrière. Je l'envisage plutôt comme un voyage. J'ai envie de pas aller toujours dans un seul pays. J'ai envie de voyager tous les pays du monde et j'ai envie de voir le plus de métiers possible.
2 questions sur les challenges que peuvent rencontrer les entreprises. À ton sens, quel est le plus gros challenge dans le développement d'une culture d'entreprise qui soit saine et inclusive?
Ça reprend ce dont on a discuté un peu avant, la faire accepter par ses salariés. C'est pour moi le plus énorme challenge, c'est vraiment la faire accepter et que les salariés y adhèrent et y croient. Si on mobilise les salariés et qu'on arrive à faire en sorte que tout le monde adopte et surtout y croit dans ses valeurs, on a tout gagné.
Toujours en termes de gros challenge, quel est celui qui attend les entreprises quand il s'agit de diversité et d'inclusion?
Être capable de se remettre en question en permanence. Le plus gros challenge pour moi, c'est de ne pas s'arrêter en fait. On risque de se dire à un moment donné, oh, on est pas mal en termes de diversité, on s'arrête. Et non, il faut être en permanence, en amélioration continue, parce que ça apporte du positif dans toute la chose. Et il y a tellement de choses à faire pour que tous ces salariés se sentent bien. Le plus gros challenge, c'est vraiment d'arriver à faire en sorte de répondre à chaque employé, en fait, en quelque sorte. Parce que les besoins d'une personne trans ne vont pas être les mêmes que les besoins d'une personne handicapée. Même en fonction des handicaps, les besoins ne vont pas être les mêmes. Et les besoins ne vont pas être les mêmes pour une personne racisée ou pour une personne homosexuelle. Et c'est d'être capable, c'est pas infaisable. C'est faut réussir à faire en sorte que ce soit une mentalité qui soit induite par ces valeurs. Le plus gros challenge dans tout ça, je pense que j'ai trouvé ma réponse, vraiment. Le plus gros challenge, ça va être, là pour l'instant, dans le contexte actuel, ça va être de lutter contre la société.
D'aller à rebours des penchants négatifs.
D'aller à rebours du recul qu'on vit actuellement dans la société. C'est d'avancer, d'être en avancement, enfin, dans cette avancée continue, sachant que la société, elle recule, et de pas se laisser avoir par les sirènes de ce recul, et d'aller ouais, vraiment contre la société. Ça, je pense que là, c'est vraiment le plus gros challenge des prochaines années.
On va arriver sur les questions de fin, qui sont les idées reçues. Est-ce que tu pourrais me citer une idée reçue sur la culture d'entreprise?
Que ça sert à rien. Je pense que là, c'est ce qui me vient à l'esprit, c'est que, et je pense que malheureusement, pour beaucoup de personnes, c'est encore le cas de penser ça, que ça sert à rien. Alors que ça sert quand même à beaucoup de choses et ça entraîne beaucoup de positif.
Toujours dans les idées reçues, une idée reçue sur la diversité et l'inclusion.
Qu'on parle que de LGBT, je serais tenté de dire que ça sert à rien aussi, mais c'est la même réponse que pour la culture d'entreprise. L'idée reçue, je pense, c'est pas que ça sert à rien, c'est que ça amène du négatif. Plus il y a de diversité, plus c'est négatif, alors que c'est totalement l'inverse.
Et enfin, quelle phrase ou expression tu ne veux plus entendre?
On parle trop de diversité et inclusion. Je pense que c'est celle qui mérite le plus le poil. C'est on parle trop de, on parle trop des trans, on parle trop des personnes LGBTQIA+, on parle trop des personnes racisées. Non, on n'en parle pas trop. On essaie juste de mettre en avant des personnes dont on ne parlait pas avant. C'est juste qu'il faut s'habituer à ce que les personnes soient différentes de nous et que on parle jamais trop d'un sujet, surtout un sujet de bienveillance et un sujet d'acceptation de l'autre. On n'en parle même pas assez.
Merci beaucoup.
C'est moi qui te remercie.
J'ai une dernière question que je pose à tout le monde. À la fin de cet enregistrement, comment tu te sens ?
Très bien. Je me sens comme si on avait été prendre un café, qu'on avait papoté. J'ai adoré.
Trop cool. Bah pareil, c'était super chouette. Merci beaucoup pour ton temps et pour ton partage d'expérience aussi honnête et franc là-dessus. J'espère que ça va aider beaucoup de RH pour que d'autres personnes trans soient mieux accueillies et même plus généralement les personnes soient mieux accueillies, mais aussi surtout les personnes trans qu'on sait que c'est un vrai sujet. Et que les RH sont parfois assez perdus sur comment bien accueillir, et que si on accueille mieux en entreprise, les gens se sentiront forcément mieux. Donc merci beaucoup.
Merci.
Accompagner au mieux les transitions, c'est comme accompagner au mieux chaque salarié. Chaque personne peut avoir des besoins spécifiques et peut ne pas souhaiter la même chose qu'une autre dans une situation comparable. Il est donc essentiel d'avoir une trame pour recueillir les besoins des personnes en transition et construire leur parcours avec elles. Au bout d'un moment, l'entreprise devrait avoir recensé les demandes qui reviennent le plus souvent, et les parcours sont alors beaucoup plus faciles à créer puisqu'ils deviennent modulaires en fonction des besoins exprimés. Cela demande du travail en amont, mais c'est parfaitement faisable. Envoie-nous un message à contact@projet-adelphité.com, le tout sans accent, si tu souhaites travailler sur une telle trame. Pour plus de contenu en diversité, équité et inclusion, tu peux te nourrir dans la newsletter de Projet Adelphité. D'ici là, n'oublie pas de t'abonner au podcast pour ne pas manquer notre invitée de la semaine prochaine, qui est experte RH. Trois éléments à la fin de cet épisode. Tout d'abord, j'espère que tu as passé un bon moment avec nous. Cet épisode a été proposé par Projet Adelphité, agence de conseil et stratégie en diversité, équité et inclusion. Tu peux nous contacter pour conseiller ton entreprise sur ces sujets à contact@projet-adelphité.com. Ensuite, Inclusivement Vôtre revient tous les mardis matins. Tu peux retrouver les précédents épisodes sur toutes les plateformes d'écoute, mais aussi sur le site www.projet-adelphité.com, ainsi que sur la page LinkedIn et Instagram de Projet Adelphité. Enfin, tout tes likes, partages, commentaires sur toutes les plateformes d'écoute ainsi que tes 5 étoiles sur Apple Podcasts soutiennent notre travail. À mardi prochain pour un nouvel épisode d'Inclusivement Vôtre.